Bonne année à tous. Que le Seigneur vous accorde plein de santé, beaucoup de réussite. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'ai choisi sur le thème de bénédiction du Seigneur. Comme je viens de vous souhaiter la bonne santé, j'ai réfléchi comment on pourrait vraiment bénir les uns des autres. Et à travers l'exemple de Joseph, nous allons voir cette bénédiction qui a été accordée à Joseph, mais aussi à plusieurs d'autres personnages bibliques. Bien sûr, je ne sais pas si vous vous rappelez ma dernière prédication sur la bénédiction. Comment ? Voilà, la prospérité. J'ai parlé de la prospérité, non pas la théologie de la prospérité. Il ne faut pas se confondre. J'ai bien précisé que la parole de Jean 3 n'est pas une promesse de bénédiction dans tout ce que vous faites, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Jean a écrit une lettre à Gaius pour lui souhaiter, c'est pas pareil, faire une promesse, enfin, que ça devienne une doctrine, mais est complètement différent par rapport à un souhait qu'on peut faire pour bénir quelqu'un. Et surtout, je disais que c'est très important de recevoir cette bénédiction spirituelle, bénédiction de notre âme, qui est la plus importante, suivie bien sûr de la bénédiction matérielle, du succès dans tout ce qu'il entreprendra en ce qui concerne Gaius. En tout cas, c'est un souhait, non une promesse obligatoire. Alors, pour ce matin, je vais prendre plusieurs textes un peu par-ci, par-là, dans le Nouveau Testament et aussi surtout dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire les trois premiers versets de Psaume 1, qui est assez célèbre, que j'aimerais vous lire. Heureux l'homme, donc voilà un verset qui commence bien, qui déclare heureux l'homme. Qui est l'homme heureux ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si nous respectons ça, nous devenons des hommes heureux. Ça veut dire que heureux l'homme qui ne suit pas sur la voie des méchants, qui médite la parole de Dieu, jour et nuit, on est sans arrêt en communion avec le Seigneur. Et au verset 3, il est dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Au verset 3, nous voyons le résultat de l'homme heureux qui ne suit pas la voie des méchants, mais il récolte des fruits. Je peux dire encore que la prospérité décrite ici n'a rien d'extravagant. Le psalmiste ne dit pas que cet arbre produit trois fois ou même voire cinq fois plus de fruits que les autres. Non, il dit simplement qu'il produit du fruit en sa saison. Il ne dit pas non plus que ses feuillages sont plus verts ou plus brillants que les autres, mais simplement qu'elles ne se flétrissent pas. C'est bien, c'est intéressant. En fait, le cœur de cette prospérité, c'est la continuité. Ce n'est pas avoir beaucoup de fruits dans l'année et rien la suivante, mais c'est la constance, oui. Pour cela, il est crucial d'être planté près d'un courant d'eau pour être nourri, pour que le Seigneur nous pourvoie avec sa force, pour qu'il puisse nous renouveler chaque jour. La prospérité biblique, c'est quand les besoins essentiels sont satisfaits de manière continue. C'est ça la bénédiction décrite dans Psaume 1, verset 3. Je relis encore, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que nous soyons vraiment dans la continuité de notre vie pour être sous le regard du Seigneur. Bien sûr, nous pouvons aussi être dans l'abondance, ou même on peut être aussi face à l'épreuve, comme Joseph. La plus grande bénédiction, en tout cas, reste d'être près de la source d'eau vive. Est-ce que nous sommes prêts à être, ou est-ce que nous sommes prêts à vivre cette année 2026, à être près de la source d'eau vive, celle qui nous donne la force et aussi la stabilité pour avancer chaque jour. Alors, pour vous, c'est quoi être près du courant d'eau? Je vous donne l'exemple de Joseph qui a été près du courant d'eau. En fait, il était sous la présence du Seigneur. Je vous rappelle un peu l'histoire de Joseph dans le texte biblique de Genèse 39. Si tu veux, tu peux afficher aussi. Hein. Je ne vais pas lire de toute façon. Mais pour ceux qui veulent, vous pouvez lire. Le texte biblique Genèse 39, nous voyons justement une définition de la réussite qui bouleverse nos standards humains. Pour Joseph, la prospérité n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence constante de Dieu au cœur de l'adversité, au cœur des épreuves. Avant d'être déclaré prospère, Joseph a traversé ce que l'on pourrait appeler une descente aux enfers. D'abord, il est né, donc sa maman c'est Rachel, la maman que Jacob, ah oui, pardon, je me souviens pas son nom, que Jacob a aimé, et il était un des derniers, avant encore que Benjamin arrive, mais il était choyé du coup par Jacob, et du coup, il y avait du favoritisme de la part du père, ce qu'il ne faut jamais faire, n'est-ce pas? Et donc il a été aussi haï par ses propres demi-frères au point qu'ils envisagent son meurtre. Et ensuite il a été jeté au fond d'une citerne vide, il est finalement vendu comme une simple marchandise, il a été vraiment vendu comme un esclave destiné à l'Égypte. Et ensuite, il se retrouve tout seul dans un pays lointain. Vous savez, son identité se définissait par rapport à la famille, par rapport à la terre. Et là, il est loin de sa terre, il est loin de sa famille. Et donc, il se retrouve vraiment tout seul, sans rien, dans une culture étrangère. Imaginez un petit peu les étudiants qui viennent très très loin pour étudier en France. C'est pareil aussi. On peut se sentir très 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 seul, loin de sa famille. Et lui, en tout cas, non seulement il se sentait seul, mais aussi il était devenu esclave. Il devait travailler pour les autres. C'est précisément en tout cas dans cette position d'esclave, d'épreuve, que la Bible nous affirme au verset 39, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Voilà jusqu'ici notre lecture. L'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagne. Ici, ce n'est pas la réussite dans tout ce qu'il fait ou la faveur qu'il gagne, enfin, ce n'est pas l'argent qu'il gagne, non, ce n'est pas ça, c'est la réussite, c'est la faveur qu'il gagne aux yeux de ceux qui l'entourent, la prospérité qui l'accompagne. La présence de Dieu dans la vie de Joseph n'était pas un sentiment privé qui était réservé à lui tout seul, non. La présence de Dieu était visible de l'extérieur, au point que son maître Potiphar a pu voir en lui la présence de Dieu. Oui, Potiphar, qui ne connaissait pas Dieu, a vu que l'Éternel était avec Joseph et il a remarqué que tout ce que Joseph touchait réussissait. Et donc c'est comme ça qu'il a pu obtenir la confiance de son supérieur et ainsi, il a pu, avec son intégrité, avec la grâce de Dieu sur lui, Potiphar a pu lui faire confiance et même a pu lui confier la gestion totale de sa maison. On voit vraiment que une personne dans la présence de Dieu, on voit aussi le résultat, l'influence qu'il peut apporter Et cette influence est bien visible. Ce n'est pas du tout interne, c'est aussi externe. Alors, voilà, c'est ça un peu, on peut dire, c'est ça un peu être planté près d'un courant d'eau. Est-ce que, j'aimerais vous poser la question, est-ce que nous aimons vraiment que Dieu soit avec nous? La question. Oui. Oui. Mais parfois, la présence de Dieu nous semble encombrante parce qu'elle met en lumière nos zones d'ombre. Le Seigneur est, certes, si nous sommes devenus croyants, on veut servir le Seigneur, on aime le rencontrer, mais on n'est pas parfait. Il y a encore des choses à améliorer dans notre vie. Aimer vraiment que Dieu soit avec nous veut dire aussi le laisser entrer dans toutes les chambres de ma vie entière. Parfois, on cache une chambre, on met de côté. On peut lui montrer nos salons, nos chambres, mais il y a une cave où on met des choses qu'on ne veut pas dévoiler à Dieu. Ça veut dire qu'il faut accepter que Dieu soit présent dans tous les aspects de notre vie, y compris nos désirs les plus secrets. C'est ça, aimer vraiment que Dieu soit avec nous. Savoir renoncer si une activité ou une habitude ou une ambition nous éloigne de Dieu ou lui déplaît profondément. Nous devons avoir le courage de la couper. C'est ça, aimer vraiment que Dieu soit avec nous. Dieu n'est pas un juge qui force à travailler tout le temps. Il veut aussi être avec nous dans nos moments de détente ou nos loisirs aussi. Vous savez bien que j'aime bien le tennis. Donc ça aussi, je pense aussi qu'à travers mes activités, enfin je ne joue plus depuis un an, mais à cause de ma tendinite. Mais je sais que le Seigneur m'accompagne dans mon temps de loisirs, de détente, parce que ça me permet de me ressourcer davantage pour pouvoir aussi travailler pour le Seigneur. Je ne dis pas d'abandonner toutes nos activités dans le monde, non, pas du tout. Tant que ceux-ci ne sont pas contraires à sa sainteté, on peut maintenir. Donc à chaque activité, on pourrait réfléchir, est-ce que ça déplaît ou ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est un bienfait pour moi ou pas? Il faudrait réfléchir. L'essentiel est de maintenir ce lien d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, dans toutes nos activités. Dans cet arbre planté près d'un courant d'eau, peut apporter bien sûr son fruit en sa saison, le feuillage qui ne flétrit point, mais il peut y avoir aussi une grande bénédiction qui peut aussi nous être apportée. Souvent on a tendance aussi à limiter la puissance de Dieu, alors que Dieu nous dit clairement, ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Je prêche souvent avec ces... Enfin, je prêchais. Quand j'étais jeune, je prêchais souvent ce verset. Je disais même, je priais même en disant, oui Seigneur, tu as dit que tu seras la tête et non la queue. Donc Seigneur, utilise-moi comme la tête. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris. Hein, c'est dans Deutéronome 28, 13 qui dit que l'Éternel te fera régner sur beaucoup de nations. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non et jamais en bas, à partir de ces versets, je priais beaucoup aussi la bénédiction matérielle quand j'étais jeune. Mais après, j'ai compris que c'est dans tous les domaines, même surtout spirituel. Voilà, il ne faut pas limiter la puissance de Dieu parce que Dieu agit puissamment, même au-delà de ce que nous demandons. Nous ne devons pas limiter la prospérité à un seul aspect. Il est erroné de ne pas reconnaître bien sûr la main de Dieu dans notre quotidien, parce que c'est comme on vient de lire les trois premiers versets, c'est une grande bénédiction d'avoir une vie quotidienne qui va bien. Mais il est bon aussi de faire l'expérience de Dieu qui remplit nos vies en abondance au-delà de nos attentes. Lorsque nous ouvrons grand notre bouche, Dieu ne doit pas limiter cette bénédiction avec nos pensées à nous. Je donne un exemple sur ça. Vous connaissez l'épisode de la multiplication des pains, enfin de pain et de poisson, dans Jean 6. Nous voyons deux attitudes très différentes face à un besoin urgent. Voilà, les gens avaient faim. Jésus voulait les nourrir. Et puis, devant cette question que Jésus se pose aux autres, les disciples avaient une certaine mentalité de limitation. Je dirais même très terre à terre. Ils étaient très organisés, donc très terre à terre. Il faut être très terre à terre, d'ailleurs, hein, à première vue. Ils se concentraient sur les ressources qu'ils avaient, ils se focalisent sur le problème et ils concluent que c'est impossible de nourrir autant de monde. Hein, ils n'ont pas d'argent. Ils se disent d'ailleurs, il faudrait 200 deniers pour que chacun ait un peu à manger. Et ils savent très bien qu'ils n'avaient pas cet argent-là. Bah, résultat, cette mentalité assez terre à terre, qui est aussi quand même important pour vivre, mais ce genre de mentalité peut aussi nous enfermer dans la peur et dans le doute, bloquant aussi le canal de la bénédiction de Dieu. Par contre, il y avait un enfant qui était prêt à donner sa nourriture. En entendant le besoin, bah, il a apporté sa nourriture, son pique-nique à Jésus. Lui, il n'a pas calculé. Il voit juste un besoin, il offre son pique-nique. Il ne sait pas forcément que Jésus va utiliser cette nourriture pour nourrir autant de personnes, mais il fait ce qu'il peut. Et il lui fait confiance. Il ne fait pas le calcul excessif en disant que non, on ne pourra pas tous nourrir. Mais il laisse Dieu agir avec ce qu'il a. Voilà, je pense que la prospérité biblique demande un cœur entier comme cet petit enfant et que Dieu n'a pas besoin que nous ayons beaucoup, mais qu'on lui donne tout ce que nous avons, même peu, pour que le Seigneur puisse agir. Ça va ? Encore un troisième exemple. La prospérité ou la bénédiction de Dieu vient aussi par l'action. J'aimerais vous donner aussi l'exemple de Caleb, Josué chapitre 14. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Caleb est un des grands personnages les plus fascinants de la Bible pour illustrer ce que signifie marcher avec Dieu. Selon Caleb, la prospérité n'est pas une attente passive. Vous savez, on peut attendre sous l'arbre jusqu'à ce que la pomme tombe, n'est-ce pas? Ça, c'est une attitude passive. Mais voilà, lui, il est plutôt actif avec la présence de Dieu. Caleb, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément son histoire, il était un des rares survivants avec Josué à être né en Égypte et à avoir traversé la mer Rouge, survécu aussi aux 40 ans dans le désert. Et puis, enfin, il pénètre dans la terre promise avec Josué, enfin, avec tous les autres aussi, mais les deux étaient les deux seuls survivants. Il avait à peu près 85 ans. Il a tout vécu, plein de guerres, et maintenant, il est devenu vieux. Mais malgré son âge, c'est maintenant ils vont faire la conquête de la terre promise et ils ne demandent pas une retraite paisible ou un pays où, voilà, non. Ils demandent une terre difficile à acquérir. Difficile à acquérir. Et il va tout faire pour que, avec sa tribu, pour monter dans une zone montagneuse de Juda, spécifiquement la ville d'Hébron, où il y avait des guerriers géants, des Anakim, qui terrifiaient le peuple. Et en plus, ces gens de la ville d'Hébron, ils étaient protégés par des villes fortifiées, immenses. Donc, un grand obstacle. Mais il choisit cette étape-là. Il choisit l'action. Il ne choisit pas une douce retraite. Je pense que même après notre retraite, on est appelé à travailler. Non ? Pour les retraités. Il y a quelques retraités. Je sais qu'ils ont aussi un planning de ministre. On est tous appelés à travailler jusqu'au bout, je pense. Comme cette... bien sûr, à notre rythme, bien sûr, à notre rythme. Il ne faut pas avoir peur de sortir de son zone de confort pour entrer voilà, dans l'aventure. Vous savez que si je pars l'église de Vendeuvre, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, je vous aime beaucoup. Au contraire, j'aimerais rester jusqu'à ma retraite. C'est une église stable qui est en développement et aussi très calme. En même temps, pourquoi je pars? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis dans mon zone de confort. C'est trop bien. On vient d'implanter 2 églises. On a fait plein de choses. L'église grandit. Voilà, il y a beaucoup de responsables maintenant qui gèrent chaque activité. Et moi, je me coule en douce. Il y avait une certaine stabilité, stagnation. Et je me suis, dans ma prière, le Seigneur a dit, non, il faut que tu fasses autre chose. Il m'a donné vraiment la conviction de changer pour entrer dans une autre phase d'aventure. Et maintenant, vous savez que je vais aller à l'église de Taverny, mais c'est une église jeune, une église pas aussi mature que notre église. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de choses à faire aussi avec cette nouvelle église. Donc, voilà, je me dis, encore cette semaine, encore la semaine dernière, je prie beaucoup aussi pour ma prochaine destination. Et le Seigneur me dit, mais voilà, n'aie pas peur. Et moi, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Seigneur, je ne sais pas quoi faire parce que ce n'est pas une église mature. Je vois que ce n'est pas bien, aussi bien organisé. Il faut mettre plein de choses en place. Et puis, je ne sais pas si j'aurai la capacité de gérer, de prendre ça sur mes épaules, même si je vais bien sûr travailler avec les autres frères et sœurs. Parfois, il faut savoir sortir de son zone de confort. Et je suis convaincu aussi que l'église de Vendeuvre, avec un nouveau pasteur, l'église va s'envoler. Décoller. Pas disparaître. J'ai imaginé l'image d'un avion, voilà. Avec moi, ça a bien roulé, et puis ça a décollé aussi, mais ça doit encore décoller plus, avec un autre pasteur. Je pense que ça a été comme ça avec David Brown, ça a été comme ça avec François Longeon, ça a été comme ça aussi avec Olivier Hébert, et puis ça a été aussi comme ça avec moi. Et je pense que ça va encore faire des choses, Dieu va faire bouger cette église, va donner plein de grâce avec le nouveau pasteur, et aussi en collaboration avec les anciens qui sont déjà là, même si on ne sait pas vraiment si la personne que nous voyons actuellement va devenir notre pasteur, mais si c'est lui qui vient, en fait, il sort de l'école biblique, donc il n'a pas autant d'expérience. Mais je fais confiance aux anciens, à vous aussi, pour l'épauler, pour l'aimer, pour travailler ensemble. Voilà, c'est pas une prédication, c'est pas ma dernière prédication. Voilà, faut pas avoir peur de sortir de son zone de confort. Le message, en tout cas, souligne cette promesse de présence, « Je serai avec toi » est le fil conducteur de la Bible. Et c'est vrai que Joseph a été un canal de bénédiction pour Potiphar, pour ceux qui l'entourent, pour ses proches. Il a été vraiment, Dieu a agi avec lui et il a été vraiment une source de bénédiction. Que nous puissions aussi être une source de bénédiction pour ceux qui sont proches de nous, pour nos familles, pour nos proches, pour nos voisins, pour les gens de, pour nos frères et sœurs en Christ ici à l'église de Vendeuvre. Alors pourquoi certains ne sentent-ils pas que Dieu est avec vous, avec eux? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore sortis de leur zone de confort. Il faudrait vraiment, si nous restons assis sans prendre de risques ou sans servir, la présence de Dieu reste une théorie. Comme l'arbre planté près du courant d'eau, c'est le mouvement d'eau qui nourrit l'arbre, et donc par la prière et par etc. J'aimerais encore vous donner, pour terminer ma prédication, cette image que vous connaissez bien, les traces de pas dans le sable. Un homme regarde le film de sa vie et voit deux paires de traces de pas sur le sable, la sienne et celle de Jésus. Dans les moments les plus sombres, il n'en voit qu'une seule et accuse Jésus de l'avoir abandonné. Et Jésus répond, « Mais mon enfant, là où tu ne vois qu'une seule trace, c'est parce que je te portais. » Et donc, l'écrivain de cette histoire conclut que la prospérité, c'est accepter d'être porté par Dieu quand nos propres forces nous lâchent. Dieu peut aussi être présent dans les moments les plus sombres de notre vie. Et il nous relève, il nous porte, et c'est ça aussi, être dans la bénédiction de Dieu. Il nous invite pour cette année 2026 à ne pas chercher le succès par nos propres calculs, mais à oser bouger avec Dieu, car sa présence est le seul véritable moteur de la réussite. La prospérité biblique commence par la présence de Dieu dans notre vie, comme nous l'avons vu avec Joseph, Caleb et le psalmiste. Il faut être près de la source d'eau vive qui nous permet de produire du fruit constant, même au milieu des épreuves, comme Joseph. Il faut aussi que la présence de Dieu transforme notre quotidien. Elle nous rend efficace, favorable aux yeux des autres et capable d'impacter positivement notre entourage. La foi active, comme Caleb, il permet aussi d'agir avec Dieu, marcher vers le défi et se mettre en mouvement. J'espère vraiment que 2026 soit une année en mouvement avec le Seigneur. En 2026, que notre désir ne soit pas simplement de réussir selon nos propres plans, mais de marcher avec Dieu, de rester proche de lui et de recevoir sa bénédiction et de devenir des canaux de vie et de prospérité pour les autres. Ainsi, la vraie prospérité ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que Dieu accomplit à travers nous, quand nous lui faisons confiance et que nous avançons avec courage et foi, le Seigneur sera avec nous. Que cette année soit vraiment une année où nous expérimentons sa présence, sa fidélité et sa bénédiction à chaque pas que nous ferons avec lui. Amen. Je vous invite à la prière.